Et notre invité ce matin dans le 8:30, Jean-Yves Roux, bonjour.
Bonjour.
Sénateur des Alpes-de-Haute-Provence, membre du groupe du Rassemblement démocratique et social européen. La France a-t-elle toujours un fonctionnement démocratique? Je vous pose cette question après l'utilisation successive du 49-3 par le gouvernement, la dernière en date bien sûr pour la réforme des retraites.
Écoutez, aujourd'hui, le gouvernement a utilisé le 49-3 à plusieurs reprises depuis le mandat, depuis à ce que la Première ministre soit en exercice depuis quelques temps. Je trouve que cette démocratie est un peu, si vous voulez, un peu dommage dans le système où on n'a pas un vote au niveau du Parlement et c'est un 49-3 qui décide à la place du Parlement. Donc je remets en cause un peu cette réflexion, car je pense que avant que sorte le 49-3, il faut essayer de trouver une solution, un compromis avec tous les partenaires politiques que nous avons pour que on puisse avoir une discussion. Et je trouve ça dommage que le 49-3 soit sorti.
Et ce serait quoi justement ce consensus? Il ressemblerait à quoi selon vous?
Mais écoutez, déjà aller au vote comme nous l'avons proposé et comme nous l'avons fait au Sénat, c'est-à-dire qu'on est allé jusqu'au bout des articles. Et après, il y a eu un vote, même s'il y a eu le 44-3 ou le 47-1 qui permet de faire un vote bloqué, mais il y a eu un vote. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de vote à l'Assemblée nationale. Donc, je comprends la situation des syndicats qui appellent à la grève depuis un certain temps.
Dixième acte, justement, ce mardi, un dixième acte de mobilisation contre la réforme des retraites. Après l'allocution télévisée d'Emmanuel Macron, selon vous, on va aller dans une mobilisation sur la durée?
Écoutez, je ne sais pas si les syndicats vont pouvoir tenir sur la durée, mais je pense qu'il faut absolument que le président de la République, avec la Première ministre, rencontre les syndicats rapidement. Alors, les syndicats veulent rencontrer, vous le savez, la Première ministre ou le président de la République, mais à condition que d'une chose, qu'ils retirent la réforme. Moi, je dis que la réforme a été votée, il faudrait qu'on suspende la réforme, comme on l'a fait antérieurement, quand il y avait eu la loi de Vaquet, où le gouvernement Chirac avait, entre guillemets, pas promulgué cette loi et avait, entre guillemets, suspendu. Je pense qu'aujourd'hui, on peut faire la suspension de cette réforme et pour le bien-être, je pense, des citoyens, mais aussi du climat que nous vivons à l'heure actuelle en France, il est urgent de faire cette réflexion.
Mais suspendre pour aller vers quoi, justement? Est-ce qu'il faut une réforme des retraites?
Écoutez, moi j'étais plutôt sur la réforme de 2014, la loi Touraine, qui était pour moi une réforme qui était vraiment dans la logique de ce qu'on pouvait faire, même si elle a été contestée, mais elle a été débattue au Sénat, à l'Assemblée, il n'y a eu aucun problème. Aujourd'hui, la réforme à l'âge de 64 ans, immédiatement, en nous indiquant comme quoi on n'arrivait pas à équilibrer la partie recettes et dépenses au niveau de la retraite, je trouve qu'on a rencontré plusieurs économistes qui nous disent qu'en principe, c'était très dur jusqu'en 2030. Mais après 2030, en principe, comme le gouvernement voulait réaliser le plein emploi, de ce fait, plusieurs emplois seraient créés et donc des cotisations pour la retraite et permettraient d'avoir un équilibre, apparemment, en 2030. Parce que là, on se fait une prospective, on ne sait pas ce qui va arriver dans les années à venir. Mais je pense qu'il fallait attendre 2030, peut-être pour faire une revoyure comme nous, les sénateurs, l'avons demandé.
Alors, autre sujet qui concerne directement les Alpes du Sud, c'est ce comité de suivi de la sécheresse qui s'est réuni la semaine dernière. Frédéric Esmiol, le président de la Chambre d'agriculture des Alpes-de-Haute-Provence, disait sur l'antenne d'Alpe 1, on va certainement parvenir à un accord d'ici la fin du mois d'avril. Un accord qui dirait tout simplement, si la Durance et si le Verdon sont en état de vigilance ou d'alerte, eh bien, quand il y aura des restrictions, ce ne sera pas que pour les Hautes-Alpes ou que pour les Alpes-de-Provence. Tout le monde sera concerné, en tout cas tous les utilisateurs de l'amont et de l'aval.
Oui, tout à fait, exactement. C'est ce qu'on demande depuis plusieurs temps, parce qu'on s'aperçoit que malheureusement, nous, en amont, nous faisons beaucoup d'efforts au niveau quand il y a une grosse sécheresse, mais dans le sud de notre région, ils ne tiennent pas en compte du tout. Donc, ils continuent à utiliser les arrosages, ils continuent à remplir leurs piscines, ils continuent à faire leur renouvellement d'eau au niveau d'un des piscines privées. Je pense qu'il y a une réflexion à prendre entièrement sur la région. Donc, je crois que ce comité de suivi, j'espère qu'il va aller jusqu'au bout. Nous, en tant que parlementaires, donc, on suit de loin, hein, parce qu'on n'est pas, entre guillemets, on n'est pas on participe pas à ces réunions-là, hein, parce qu'on n'est pas du tout invité. Mais je pense que c'est une bonne réflexion que ce suivi pour la sécheresse. Parce que, vous savez, j'ai fait un rapport en 2019 sur l'état d'urgence, sur le dérèglement climatique à l'horizon 2050, et on voit vraiment qu'on touche vraiment du doigt par rapport à ce qu'on avait fait avec mon collègue Lantec dans la délégation à la prospective sur la sécheresse. Aujourd'hui, on y est vraiment dedans.
Alors, vous avez déposé une proposition de loi pour rendre justement la compétence eau et assainissement aux communes. Alors ça, c'est une guerre de l'eau qui s'installe dans les intercommunalités, mais même au sein des intercommunalités, on serait d'accord pour rendre cette compétence eau et assainissement aux communes, qui, au final, ne trouvent pas d'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire pour demain? Parce qu'on suppose très bien que cette proposition de loi, elle ne trouvera pas d'écho par la suite.
Écoutez, moi d'abord, j'espère qu'elle trouvera un écho, parce que si on a fait la proposé cette proposition de loi, c'est en espérant que l'Assemblée nationale puisse l'étudier, la voter, et pourquoi pas la mettre en place et la promulguer. Aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes dans nos territoires, ça concerne surtout les communautés de communes. Les communautés de communes, la compétence sera transférable obligatoire à partir du 1er janvier 2026. Au niveau des communautés d'agglomération, aujourd'hui c'est le cas, depuis le 1er janvier 2020. Donc nous demandons à ce que l'option soit réalisée, soit poursuivie pour les communautés de communes, c'est-à-dire que les communes puissent garder leurs compétences après le 1er janvier 2026. Donc c'est notre but, parce que pour nous, c'est dans nos territoires ruraux et des territoires de montagne, c'est la proximité. Quand vous avez une intervention d'une fuite d'eau qui est à 80-90 km du lieu entre guillemets, où il y a le siège de la communauté de communes, le délai n'est pas le même qu'en ville, dans le monde urbain ou sur une métropole où la rapidité et la fluidité des réseaux routiers sont plus faciles qu'en zone de montagne ou en zone rurale. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de proposer au niveau du gouvernement à ce qu'on puisse prolonger l'optionnel en essayant de trouver des solutions pour que si un jour vraiment, on veut vraiment mettre complètement la compétence eau et assainissement qui soit obligatoire, on puisse donner un délai supplémentaire pour réparer justement des pertes d'eau que nous avons dans nos tuyauteries, dans nos réseaux, à travers des fuites. Et je pense qu'aujourd'hui, le financement qu'accorde l'État à travers la DETR, c'est quelque chose qui est très bien, mais l'Agence de l'eau s'est complètement désengagée par rapport aux communes qui n'ont pas transféré cette compétence. Alors aujourd'hui, les communautés d'agglomération bénéficient de subventions supplémentaires parce qu'elles gèrent, entre guillemets, le réseau de l'intercommunalité à travers des subventions de l'Agence de l'eau. Mais les autres communautés de communes qui n'ont pas récupéré cette compétence n'ont pas de subvention vraiment égalitaire par rapport à ce qui a été transféré auparavant.
Donc du coup, à voir donc, au sein de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup Jean-Yves Roux d'avoir été avec nous ce matin, sénateur des Alpes-de-Haute-Provence, membre du groupe du Rassemblement démocratique, social et européen. Merci beaucoup.